Il est 6h40, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Un peu d'histoire ce matin Jacques, en ce lundi de Pentecôte, vous nous rappelez le sens de cette fête religieuse.
Mais oui, vous vous souvenez Clara, la fête, donc c'est le moment où l'Esprit, selon la tradition, s'est posé sur les apôtres pour qu'ils témoignent dans toutes les langues du monde. Et c'est donc aussi l'occasion d'examiner le rôle de la religion dans les relations internationales.
Nous vous écoutons.
Merci Clara Le Coq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Les disciples de Jésus avaient d'ailleurs été prévenus. Les Actes des apôtres rapportent que lors de l'ascension, 10 jours plus tôt, le Christ leur avait assuré juste avant de disparaître « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce qui n'empêcha pas les impétrants de s'étonner eux-mêmes le moment venu de cette soudaine volubilité et ardeur à évangéliser, au moins autant que les témoins de l'époque qui en conclurent d'ailleurs qu'ils avaient abusé du vin doux. Comme le rappelle Vincent Poimiro dans Charlie Hebdo, la coïncidence de l'épisode avec la fête juive de Shavuot ajoute du sens à l'événement. La fête des moissons voyait affluer à Jérusalem les pèlerins de la Judée et de la Galilée tout entière, et même, si l'on en croit les Actes des apôtres, des Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, du Pont et de l'Asie, etc., etc. Bref, il ne s'agissait pas seulement de recouvrir et remplacer une fête antérieure, ce que l'Église fera souvent par la suite avec les fêtes païennes, notamment celtes. Pour ces disciples juifs de Jésus, à la Pentecôte, le monde était soudain tout entier à leur porte. Hélas, la belle unité du Saint-Esprit et du message évangélique n'a pas résisté longtemps à cette dispersion dans les langues. Rejouant Babel, les églises naissantes vont s'arroger la juste et bonne interprétation de ce que le Christ avait dit, souligne Jean-Marie Guénois dans le Figaro Vox, d'où les premiers conciles entre églises chrétienne pour se mettre d'accord sur une interprétation commune et officielle, et les premières ruptures, les premiers schismes, souvent au nom de l'Esprit-Saint, jusqu'à la réforme protestante qui affirme la possibilité pour tout chrétien d'être aussi inspiré par l'Esprit-Saint et capable d'interpréter par soi-même ou dans la communauté la Bible. Une place concédée à l'Esprit dans la tradition protestante qui explique l'importance de la fête de la Pentecôte, laquelle a repris beaucoup de vigueur au 19e siècle avec l'apparition du mouvement pentecôtiste qui s'est assigné la mission de retrouver l'intuition et la pratique des manifestations et charismes de l'Église, de l'Esprit-Saint, pardon, tels que décrits dans les Actes des apôtres. La fécondité spirituelle du pentecôtisme qui a donné naissance aux évangéliques chez les protestants et aux charismatiques chez les catholiques en fait aujourd'hui le grand vecteur de progression du christianisme dans le monde. Aux États-Unis, leur expansion est spectaculaire et leur poids politique également. Joseph Maïla rappelle dans la revue Études que près de 80% des chrétiens évangéliques ont voté pour Donald Trump. Le spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient s'interroge sur le rôle des religions dans la géopolitique contemporaine. Après une période à la fin du 19e siècle où le poids du facteur religieux s'est considérablement affaibli, aujourd'hui la religion sert de support à une affirmation identitaire et à une projection diplomatique. L'exemple turc le montre bien. Parvenu au pouvoir à la faveur d'une islamisation accrue de la société turque, le parti de la justice et du développement entreprend de conforter sa base islamique. Au plan international, c'est ce modèle d'une synthèse du religieux et de la modernité qui est promu par le régime. Des nombreux conflits qui ont vu le religieux occuper le devant de la scène depuis l'ex-Yougoslavie, Joseph Maïla tire les leçons en termes d'opérateurs symboliques qui fédèrent l'esprit de groupe, lequel se décline en 3 grandes fonctions. La fonction d'identité, celle de mobilisation et celle de légitimation, comme en Israël par exemple pour la mobilisation, pour la colonisation en Cisjordanie. Et il indique que l'irruption du religieux dans le champ politique pourrait s'expliquer par la poussée du nationalisme, voire du populisme. Enfin, last but not least, la désillusion à l'égard des utopies sociales du siècle dernier continue d'offrir une opportunité historique aux croyances religieuses qui se présentent comme des pourvoyeurs de sens et de mode culturel de solidarité. Le grand entretien avec deux philosophes indiennes dans Mediapart illustre comment l'hindouisme s'est fabriqué sur fond de nationalisme à l'époque coloniale en opposition aux autres religions du sous-continent et comment les études postcoloniales sont aujourd'hui enrôlées par le parti au pouvoir pour valoriser la reconstitution fantasmée d'une Inde précoloniale pure et purifiée. Shaj Mohan et Divya Dwivedi dénoncent notamment le fait qu'à l'heure où les viols occupent le devant de la scène politique indienne, celles et ceux qui contestent la misogynie, les discriminations religieuses ou les inégalités de caste sont renvoyés par les nationalistes hindous à leur prétendue occidentalisation. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignet.
Alors on va tout savoir sur cette fameuse loi de blocage que l'Union européenne a ressortie pour contrer l'extraterritorialité du droit américain dans le cadre des sanctions imposées à l'Iran.